Bonsoir, voilà, vous m'entendez bien. Merci à tous d'être présents pour cette cérémonie de remise des prix des Utopiales 2013. On va commencer cette cérémonie en invitant un petit peu toute l'équipe. Alors j'invite à me rejoindre Jean-Louis Josic, adjoint au maire de Nantes, Roland Loup, président de l'association du Festival international de science-fiction de Nantes, si Roland veut bien venir. Hugo Bellagamba, délégué artistique des Utopiales. Marie Masson, coordinatrice du Festival des Utopiales. Frédéric Tan, programmateur cinéma. Georges Merel, le conseiller artistique cinéma, vous pouvez les applaudir. Adélaïde Legrand, conseillère du pôle ludique. Et Gilles Francescano, qui n'a pas de titre mais qui est important. Gilles, si quelqu'un a des nouvelles de Gilles Francescano. Voilà, une fois. Bon, bah vous lui direz qu'on l'attend. Il est peut-être encore en train de regarder Albator, effectivement. Je vais passer tout de suite la parole à Jean-Louis Chosic. Et après, nous aurons Hugo Bellagamba. Le discours est dans une mallette, c'est chouette. Allez-y.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça va être très très bref, parce que vous savez, on est en période préélectorale. Donc on est prié de ne pas dire du bien, et je ne peux pas dire du mal de la politique culturelle de la ville. Donc je vais me contenter simplement de remercier évidemment tous ceux qui ont fait cette belle manifestation et qui continuent à la faire. C'est la 14e édition, 2000, une année mythique pour la première à Nantes, avec Bruno Della Chiesa, tout le monde s'en souvient. Et puis après, nous avons eu évidemment comme président et puis directeur des gens aussi importants et intéressants que Pierre Bordage et Patrick Guiguer. Et puis aujourd'hui, bien sûr, la relève est assurée, et elle est assurée par Roland Lehoucq et par Hugo Bellagamba. C'est-à-dire que cette succession montre bien que, de plus en plus, le festival de science-fiction de Nantes, les Utopiales, non seulement est sans doute le plus important en Europe aujourd'hui, et pas seulement par les entrées, également par ce qui s'y passe, à savoir que science-fiction, au début, on se dit « Ah bon, on envoie des fusées, là, des trucs, des machins, on fantasme. » Oui, oui, mais c'est du fantasme de rêve, un très beau fantasme. Et surtout, la science est de plus en plus présente. Et je crois que c'est ce qu'on a bien senti, là, durant ces jours, au cours des débats, et à voir les différentes expositions, avec des choses dont on se dit « Mais c'est pas vrai, on pensait que ça pouvait pas exister, et si, ça peut exister aussi. » Alors, merci à Marie Masson, aussi, de la Cité des Congrès. Merci à Hugo, merci à Roland, parce que chapeau, hein, vous avez bien, bien, bien repris la gâche pour que ça continue à progresser. Et puis merci à tous les partenaires, à tous les libraires, à ceux qui tiennent des stands ici, les libraires nantais, bien sûr, en première ligne, à tous ceux qui ont animé les débats, et à vous tous qui aimez les Utopiales. Bonne soirée.
On va passer la parole à Hugo Bellagamba, délégué artistique des Utopiales.
Alors, bonsoir à tous. Quelle émotion, déjà. Deuxième année en ce qui me concerne, et pour Roland Lehoucq aussi. Évidemment, extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux, aussi fidèles au festival. Alors, rapprochez-vous tous, parce que ce que je voudrais, c'est vraiment que vous compreniez quelque chose qui, pour moi, est fondamental. C'est que les Utopiales, c'est un travail d'équipe. C'est toute une communauté de gens, de talents, de passions qui vont pas simplement s'additionner, mais se fusionner les uns les autres. Toute proportion gardée, bien sûr. Et donc voici une équipe qui est équivalent, vous voyez, regardez, aux 7 samouraïs. Alors Roland Lehoucq, qui est le président. Marie Masson. Marie Masson, la coordinatrice générale, sans laquelle tout ça ne serait qu'un château de cartes. Et je pense qu'on peut lui faire une ovation. Merci Marie.
Merci à tous. Merci à tous, mais j'ai une belle équipe derrière moi. Merci à votre programmation aussi, parce qu'elle est quand même très belle. Et je voudrais une tonne d'applaudissements pour l'équipe de la Cité des Congrès, et notamment Alexandra Bertrand et Laura Bettoni, Claudie Harbert et Sam Clouet. Bravo à eux et merci à tous. Merci aux artistes et merci au public.
Très bien. Ensuite, nous avons toujours dans cette équipe de choc Monsieur Frédéric Tan, le responsable de la programmation cinéma. Grâce à qui vous avez eu Albator en avant-première galactique, entre autres choses. et aussi Saturne 3, un film remarquable, mais on va faire une pause sur ça. À côté, Georges Mérel, qui s'occupe de la programmation bande dessinée. Et qui est un fidèle depuis très longtemps de la programmation et des Utopiales. À ses côtés, Adélaïde Legrand, du pôle ludique. Bravo Adélaïde qui a ses fans. Et enfin, Gilles Francescano, le responsable des expositions. C'est grâce à lui que vous avez Vincent Calbeau, Raymond Poivet et tous les autres. C'est grâce à lui que vous avez eu Chris Foss aussi cette année. Et je peux le laisser annoncer une confirmation pour l'année prochaine. Tu l'as dit tout à l'heure en table ronde, mais...
Alors, si Christophe s'en souvient, il fera l'affiche et une énorme exposition aux Utopiales l'année prochaine.
Super, super. Voilà. Donc ça, c'est les 7 samouraïs. Et je suis super content d'en faire partie. Je suis très, très, très heureux. Ça fait que 2 ans, mais avec Roland, on a l'impression d'être là depuis longtemps. Et c'est un festival qui a 14 années d'existence. Et vous êtes toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèles. On vous promet vraiment de belles programmations à venir. On a tous la passion chevillée au corps et on n'est pas prêt d'abandonner l'affaire. Donc attendez-vous encore à de belles surprises. Et vraiment, merci à tous encore. Et je vais donner maintenant la parole à El Presidente, qui va vous expliquer encore bien des choses.
Merci, Hugo. Alors, oui, c'est... La programmation, effectivement, se fait avec Hugo main dans la main. J'avoue que je mets la main à la pâte pour la science. J'en rajoute une petite louche à chaque fois. J'espère que ça ne vous épuise pas, parce que c'est d'abord un festival de science-fiction. Mais dans science-fiction, vous savez tout ce qu'il y a science, bien sûr, et je trouve que c'est intéressant de rapprocher les sciences dures, bien sûr, mais les sciences au sens le plus large possible. Les sciences dures et les sciences humaines, pour montrer que la science-fiction est vraiment ce laboratoire de réflexion sur notre monde d'ici et maintenant, et qu'elle utilise pour ça des outils qui font partie du corpus de la science vraiment au sens le plus large. Donc, cette programmation, j'espère qu'elle vous a plu cette année, elle n'est pas encore finie, il y a encore demain, vous allez voir peut-être des nouveautés. Et bien sûr, pour que ce festival puisse avoir lieu, il y a un nombre considérable de partenaires qui nous soutiennent. Je suis maintenant le spécialiste de la liste des... Chaque fois, Marie me donne la liste de tous les partenaires. Je n'ai pas encore réussi à la prendre par cœur. Je n'ai pas eu le temps de la prendre par cœur. Mais il y a évidemment sur nos partenaires qui soutiennent ce festival et de quelle manière pour lui permettre d'exister et de bien exister. Alors évidemment, il y a la ville de Nantes, la médiathèque et le musée Jules Verne, la médiathèque de Nantes et le musée Jules Verne qui soutiennent ce festival depuis bien longtemps. La région des Pays de Loire. La Sémitane, alors elle est toujours impliquée dans ce qui va se passer demain, le grand événement de demain, qui va être le cosplay, le grand cosplay, et puis tous les événements autour du pôle manga. Je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à participer au cosplay demain. Qui sera déguisé en Albator demain? Il y en aura sûrement un ou deux, voire plusieurs autres. L'INSERM et le CEA, qui sont nos deux grands partenaires scientifiques, que je veux remercier ici, qui ont proposé cette magnifique expo Futurotechno, dont je crois que beaucoup de monde, par lesquels beaucoup de monde sont passés. Et la chaîne de science-fiction Sci-Fi. Des partenaires médias qui permettent évidemment de faire résonner le festival bien au-delà des murs de la Cité des Congrès, bien au-delà dans la France entière, voire dans le monde entier. Et si l'on attend assez longtemps dans la galaxie entière, le temps que les ondes radio se propagent, alors quelques années, hein, si on est assez loin de la Terre, Radio France, avec FIP et le MOVE, Presse Océan, WIC, Mad Movies, et puis ActuSF, nous avons l'éminent Jérôme Vincent comme représentant ici présent, et bien sûr les cinémas nantais, Pathé, Gaumont, UGC Cité Ciné. Et puis pour finir, bien sûr, l'association que j'ai le grand plaisir, le grand honneur de présider, l'association du Festival International de Science-Fiction de Nantes, qui, d'une certaine façon, porte intellectuellement, après l'avoir porté physiquement, les Utopiales. L'association des libraires complices de Nantes. Si votre carte bleue est encore solide et pas devenue liquide, vous pouvez... Enfin, maintenant, ils sont fermés, mais demain, vous pouvez recommencer. Je sais que la mienne a flambé. J'en ai vu un ou deux autres qui erraient avec... une carte bleue fondante et des, je sais pas, un gros sac à dos rempli de je sais pas quoi, mais ça avait l'air lourd. Et puis l'équipe de programmation, évidemment, dont toute l'équipe qui programme, dont je fais partie, mais ils sont aussi très bons, évidemment, et ils font un boulot formidable. L'équipe de la cité, parce que tout ça, regardez, ça s'allume, les micros fonctionnent. Il y a des gens, là, on les voit pas, mais j'en vois un ici qui nous regarde là. Il y a celui là-bas, lui, et il y a un de ses collègues, il traduit, l'air de rien, lui, on le voit jamais, mais ils sont là à traduire, et ça c'est important parce que on a souvent, évidemment, dans un festival de science-fiction digne de ce nom, on doit avoir des invités internationaux, pas toujours francophones, évidemment, et normalement, et donc du coup on se doit qu'ils puissent s'exprimer dans leur langue et que vous puissiez les comprendre dans la vôtre, et réciproquement, et donc grâce à eux on peut avoir cette chose-là. Évidemment les bénévoles, parce qu'évidemment tout ça, s'ils ne sont pas là, ça s'écroule instantanément. Les bénévoles sont super importants, ils se donnent comme des malades, ils sont épuisés, ils sont encore épuisés, mais s'il y en a qui veulent s'avancer, j'en vois plein là, mais avancez-vous un peu qu'on vous voit un peu, moi je trouve que ça serait sympa que Laura, qui est responsable des bénévoles, et puis quelques ils sont peut-être tous disséminés partout, alors ça sera peut-être un peu long, mais qu'on en voit quelques-uns, il y en a une, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont forts et ils sont épuisés et il y a encore une journée, donc il faut tenir encore demain. Donc ça c'est toute cette équipe-là qui permet effectivement aux Utopiales d'exister et de bien exister. Et puis enfin, parce que tout ça c'est bien joli, mais une fois qu'on a monté la baraque, s'il n'y a personne dedans, eh bien on est content, nous on se dirait c'est bon, on a une belle baraque, c'est content, mais vous êtes là, et ça c'est à chaque fois avec Hugo, je suis sidéré l'année dernière, je suis residéré cette année, vous êtes là, nombreux, enthousiastes, et présents à nous soutenir par votre simple présence, et vos applaudissements bien sûr, mais votre présence. Donc merci encore aussi à vous pour cette 14e édition d'Utopiale, qui n'est pas encore finie, mais qui va bien se finir je pense demain. Merci. Et je passe la parole à Riroum maintenant.
Et pendant qu'ils descendent de scène, je vais appeler Daniel Tron pour le ciné-club de Monsieur Tron. Daniel Tron.
Bonsoir. Bonsoir. Hugo, je te déteste. Moi, c'est clair, je viens par un message d'amour. Hugo a eu une petite demande un peu particulière, relativement tardive, mais on a réussi. Il voulait, sous une forme de pied de nez, relativement ironique, quelque part que je mette à distance l'amour qu'on peut avoir pour le genre et pour ses œuvres cinématographiques, que j'adresse un message à Roland sur la véracité du lien entre science-fiction et science dans notre monde, tout en essayant de correspondre avec le thème, avec ce qui a été évoqué, cette certitude de l'apocalypse, les racines, cet autre monde des années 80, en me disant ça relativement tard et en me disant « tu n'as que 15 minutes ». Et comme je suis complètement inconscient, j'ai dit « oui ». Et donc à partir de quelques extraits de films, très peu, ça va être assez court, simplement pour exposer effectivement à quel point on a de la science ou pas dans le cinéma de science-fiction. Et on va essayer de commencer directement par un extrait qui résume relativement bien le pessimisme ambiant et à peu près l'endroit où on en est, à propos, on va dire, simplement des espoirs que nous pouvons encore avoir pour l'avenir de notre planète et sa situation, avec évidemment une explication scientifique limpide en béton armé. Et je crois qu'on peut regarder le premier extrait.
Vous avez bien choisi votre jour, mon ami. Ça peut monter jusqu'à 49 degrés, quelquefois. Je vais vous présenter le professeur Lokesh, chercheur en physique quantique à l'université de Chennai.
Namaste.
Le professeur Elmsley.
Alors, qu'est-ce qu'on regarde ?
Des neutrinos tout à fait normaux. Masse presque nulle, aucune charge électrique. Ils passent à travers la matière presque sans modification.
Votre message disait que leur nombre avait presque doublé suite aux récentes éruptions solaires.
Celle de la semaine dernière ? Mais ce qui s'est produit il y a 2 jours... Voilà. Les plus fortes éruptions solaires de l'histoire de l'humanité. Des éruptions qui ont relâché d'un seul coup un nombre sans précédent de neutrinos.
Mais... ça alors...
Mais ce qui m'inquiète véritablement le plus, c'est que pour la première fois, les neutrinos entraînent de fortes réactions dans la matière.
C'est impossible.
fait beaucoup de bien.
S'il vous plaît, Adrienne, suivez-moi. Vous n'allez pas me croire. Bye, Poldo. Ce réservoir a 1800 mètres de profondeur. On dirait que les neutrinos venus du Soleil ont muté en un autre type de particules nucléaires. Ils réchauffent le noyau terrestre et agissent d'un seul coup comme des micro-ondes.
On commence donc par un record du monde, ce film bien connu qui a eu un succès absolument phénoménal, 2012 de Roland Emmerich. C'est un film qui dure quand même plus de 2 heures. Nous avons vu l'intégralité du scénario du film qui est expédié dès le début, il a la décence de l'expédier. Je me tourne vers Roland pour savoir ce qu'il pense des merveilleux neutrinos mutants qui agissent comme des micro-ondes et qui manifestement font bouillir le cœur de la planète et cuire les carottes de notre destin.
Oui, alors je ne vais pas épiloguer très longtemps, mais c'est... C'est assez drôle, on va dire. Vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais c'est assez drôle. Donc, toutes les choses qu'on voit, l'éruption solaire qu'on voit, elle est réaliste. On appelle ça une éjection coronale de masse, mais ça n'a rien à voir avec l'émission de neutrinos qui vient du centre du Soleil, des réactions nucléaires au centre du Soleil. Ces neutrinos, ils n'ont pas de raison de changer. Ils passent à travers la Terre, ils passent à travers le Soleil comme si nous n'existions pas.
Mais ils mutent.
Chaque seconde.
On a dit qu'ils mutaient.
Mais ils mutent pas. Non, assez lent. Les neutrinos, en fait, se transforment d'un neutrino en un autre neutrino. Ça arrive, c'est une sorte de mutation des neutrinos, mais ça ne change pas grand-chose à leurs effets. Et il faut savoir que chaque centimètre carré, donc la surface de longue de votre pouce, il y a 65 milliards de neutrinos qui passent chaque seconde. D'accord ? Sans aucun effet sur vous, ni sur eux d'ailleurs. Ils passent à travers vous, comme ça, tranquillement, chaque seconde. De jour comme de nuit. Parce que quand le Soleil est de l'autre côté, la Terre est complètement transparente aux neutrinos, et donc ils passent sans aucun problème. Quelques-uns nous font la grâce de s'arrêter dans nos réacteurs, dans nos détecteurs de neutrinos, 50 000 mètres cubes d'eau qui servent à détecter quelques neutrinos par jour et par donc 50 000 mètres cubes d'eau. C'est vous dire que les neutrinos interagissent peu avec la matière, il y a peu de chances qu'ils fassent chauffer le cœur de la Terre comme ça, au prétexte qu'ils changeraient de on ne sait pas quoi, mais en tout cas c'est peu probable.
Pourtant, ils transpirent, ils ont besoin de glaçons.
Les gars ont chaud, mais ça se trouve, ils ont mal coupé le chauffage urbain, il doit passer pas loin. À un moment donné, c'est le chauffage urbain qui passe pas loin de leur bunker.
Ils ont regardé la machine, il y avait un truc incompréhensible, comme une pub dentifrice, manifestement ça allait être plus chaud.
Oui, il faisait chaud, mais on est d'accord.
Et ça boue dans le trou.
Dans le trou, mais surtout, quand ils ouvrent, ils disent qu'ils... dans le cœur de la Terre, et ils ouvrent, et on voit le cœur de la Terre en direct, 6378 km sous vos pieds, il y a un peu d'eau qui remonte du cœur de la Terre.
Quand même.
Donc c'est pas mal, quoi. Je trouve que c'est pas mal.
Quand même.
En fait, ça serait très pratique, ça ferait une manière de chauffage urbain gratuit. Je pense pas pourquoi ils s'inquiètent, en fait, les gars.
On va appeler Roland Emmerich.
Exactement, on va appeler Roland Emmerich.
Ils sont forts, les Allemands, en énergie. Oui. Faut qu'on enchaîne, évidemment. Alors, ce monde dans lequel on ne croit plus en rien, on est à peu près sûr qu'on va tous mourir d'une catastrophe quelconque, on va mourir dans nos propres détritus, avoir un problème d'atmosphère, peut-être être massacré par des neutrinos mutants ou une apocalypse de zombies, elle a une origine économique, scientifique, organisationnelle, qu'on peut évidemment accuser la première puissance du monde, pourquoi pas, et avoir une petite version des années 90 par Michael Bay pour comprendre comment on en est arrivé là, et ce sera donc notre deuxième extrait.
C'est à peu près en 1974 qu'on a envisagé la possibilité qu'une météorite ou mastéroïde...
Il n'y a pas quelqu'un qui a pris moins de caféine au petit-déjeuner, Doc Travisé.
Notre première étude de faisabilité envisageait la possibilité d'utiliser un laser électron libre et d'échauffer l'objet pour le fractionner.
C'est-à-dire tirer contre un train de marchandises au pistolet à grenaille.
Une autre possibilité envisagée aurait consisté à poser des engins qui déploieraient des panneaux réfléchissants sur une très grande surface et les vents solaires seraient pris dans ces sortes de voiles en milliards. Comme ça.
Vous en prie, messieurs. On a besoin d'un projet réaliste. Nous n'avons que 18 jours. Soit 431 heures, 15 minutes et 18 secondes. Ça laisse extrêmement peu de temps pour le rêve. Quoi ?
Oui.
Étant donné la proximité de l'astéroïde et le peu de temps dont nous disposons, aucun des plans envisagés ne peut fonctionner.
On n'a qu'à lui expédier 150 têtes nucléaires et on n'en parlera plus, on l'explose. Ben voyons, je vous ai parlé à vous.
Le docteur Quincy, notre meilleur chercheur, c'est un homme très brillant. Ses conseils peuvent vous être utiles.
Étant donné la nature de votre cible, sa composition, ses dimensions et sa vitesse, tout votre arsenal nucléaire la laisserait totalement indifférente.
Et je vous signale que le président a des conseillers scientifiques qui lui ont dit qu'une explosion nucléaire pourrait modifier la trajectoire de l'astéroïde.
Je connais le meilleur de ces conseillers. On a fait ensemble une partie de nos études. Et dans une telle situation, on ne consulte pas quelqu'un qui n'a pas eu la moyenne en astrophysique à son diplôme. Les conseillers du président ont tort. Si quelqu'un a raison, c'est moi.
Des frappes externes ne serviraient à rien.
Posez un pétard à mèche sur la paume de votre main. Si vous l'allumez, que se passe-t-il? Vous vous brûlez, d'accord? Par contre, si vous allumez le même pétard en le serrant très fort, c'est votre femme qui vous versera votre ketchup jusqu'à la fin de votre vie.
Vous voulez dire qu'il faut le désintégrer de l'intérieur?
C'est exactement ça.
Comment? Par forage. Il nous faut le meilleur expert en forage de grande profondeur.
Harry! Amène-toi, il y a un os! Harry!
Qui a essayé de monter? Débloque la balle, mets le que... Une poche de gaz!
J'en étais sûr! Ou j'ai de la chance, ou bien je suis génial!
Vous avez pour rien, connard! La vanne de sécurité est grande ouverte!
Ferme la deuxième balle!
Tout y est, tout y est. Le système universitaire le plus reconnu au monde, on a le MIT, on a la crème du MIT, on a ceux qui n'avaient pas la moyenne au MIT, on a ceux qui avaient la moyenne au MIT. On a un président des États-Unis qui veut absolument sauver l'humanité, mais qui n'est pas bien entouré. On est typiquement, on est exactement dans la manière dont ça marche. On a le complexe militaro-industriel américain dans toute sa puissance, on a 50 têtes nucléaires, on va lui envoyer sur la tronche et on ne va pas prendre l'astéroïde. Bref. Nous sommes protégés. Et malgré tout, ce déploiement incroyable, une histoire neuronale, on a là de la matière grise à l'appel. La solution est simple, elle s'appelle Bruce Willis. Ouais. Mais pas n'importe quel Bruce Willis. Un Bruce Willis qui va chercher du pétrole. Son métier, c'est de creuser des trous bien profonds pour aller prendre le pétrole là où personne n'a jamais osé le chercher. C'est bien lui qui va sauver la Terre. Et ça explique quand même de manière relativement synthétique comment on en est arrivé là. Remarquez que tout le film fonctionne là-dessus, censé être un magnifique film de science-fiction, comme Michael Bay sait les faire, phrase bizarre. Tout le film fonctionne sur un principe de retournement et de subversion générique. La différence entre le conte de fées et la science-fiction, si on veut ramener ça à des éléments très abstraits, extrêmement simples. Dans le conte de fées, la physique correspond à la morale. S'il faut absolument que je me prouve, que je me réalise en tant que chevalier, il faut que j'ai un monstre pour pouvoir prouver ma valeur afin que la princesse qui est là-bas, charmante aristocrate, vienne me donner ses titres et me permette de couler des jours meilleurs et, je sais pas, servir d'exemple pour les enfants pendant 4 siècles. En science-fiction, normalement, non. La morale, bon, bah, elle se prend la physique dans la tronche comme ailleurs, absolument pas dans Armageddon. Hein. Tout le long du film, ils insistent sur le fait qu'il faut y aller. La tripe. Et au final, effectivement, on a une magnifique démonstration. Le simulateur dit qu'ils ne peuvent pas forer. Ils ne peuvent pas forer au fond de l'astéroïde. Et finalement, grâce à un grand coup de tripe et de transmission filiale, effectivement, ils y arrivent. Dans Armageddon et chez Michael Bay, la tripe américaine est plus forte que les lois de la physique. C'est quand même rassurant pour nous. On va remonter encore un peu. On se dit, il y a quand même un moment, on a dû se poser les questions. Peut-être qu'à un moment, il y a des choses qui nous inquiétaient moins dans les technologies qui nous inquiètent le plus aujourd'hui. Ou alors, il y a un moment, vraiment, on n'arrivait pas à les prendre au sérieux. C'est peut-être ce qu'on a dans le troisième extrait.
Vous savez qu'on n'a jamais vérifié que notre équipement était parfaitement fiable.
C'est vrai, mais à coup.
Comme tu dis, oui.
Tant pis, il est trop tard pour s'en faire.
Ben voyons, on va pas s'en faire parce qu'on porte en toute illégalité des accélérateurs nucléaires sur nos combinaisons.
Oui. Allez, préparons-nous. Branche-moi, toi.
J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle.
Quoi?
Ne jamais croiser les effluves.
Pourquoi?
Ce serait mal.
Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal?
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Inversion complète de la charge des protons.
Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Ah oui, c'est capital comme tuyau. Merci.
On a quand même de manière très synthétique la manière dont la morale s'est retournée dans les années 80 et devenue totalement relative et où on ne s'embêtait pas d'un principe de précaution. Normal, quand un hôtel est en dérangement, on agit. C'est simple, on envoie les nettoyeurs. Mais en fait, il nous fallait des solutions de fond quand même. Parce que là, effectivement, on n'arrête pas d'éluder le problème et on voit bien qu'on y arrive. Mais la solution, manifestement, plus on avance vers notre période, moins les gens y croient. Alors, il fallait peut-être aller la chercher avant ou après. En fait, ce qu'il nous faut, on est d'accord, c'est un chef, c'est quelqu'un de charismatique qui ose faire les choses. Il nous faut un capitaine. Il nous faut quelqu'un qui ose changer l'histoire, éventuellement nous amener des solutions du passé, du futur. Changeons carrément notre histoire et demandons à la seule personne capable de le faire, c'est-à-dire le capitaine Kirk et son équipe. Voyons l'extrait suivant.
demande Sam sur la Lune, Sam sur la Lune. On demande Sam sur la Lune, Sam sur la Lune.
Professeur Scott, c'est Jim Nichols, gérant de la Plexicorp.
Ah! Vous pouvez être fier de votre usine, je vous le dis, monsieur Nichols.
Merci. J'avoue, professeur, que vos connaissances en ces matières m'ont beaucoup impressionné.
Vous savez, chez nous, nous l'appelons le professeur Miracle.
Ah oui. Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur?
Monsieur Nichols, c'est moi qui vais peut-être pouvoir vous offrir quelque chose.
Ah oui.
J'ai noté que vous travailliez encore avec des polymères.
Encore? Mais avec quoi voudriez-vous que je travaille?
Ah, voilà une excellente question. Laissez-moi vous présenter les choses autrement. Quelle devrait être l'épaisseur d'une feuille de plexiglas d'une superficie de 20 mètres sur 4 mètres pour résister à la pression d'une masse d'eau d'environ 600 mètres cubes?
Voilà.
Oh, c'est facile, 15 cm, et nous avons cette épaisseur-là en stock.
Et j'ai vu ça. Maintenant, supposez... Oui, supposez que je puisse vous indiquer un moyen de fabriquer une feuille de plastique qui remplisse les conditions demandées, mais qui n'aurait que 3 cm d'épaisseur. Cela ne mériterait-il pas quelque chose en échange?
Vous voulez rire?
Le professeur pourrait peut-être utiliser votre ordinateur.
Bien sûr.
Ordinateur. Ordinateur. Ah. Ordinateur répond.
Servez-vous du clavier?
Le clavier en plein rétro.
Compte naturellement qu'en lui donnant la formule, nous allons modifier l'avenir.
Pourquoi? Qui nous dit qu'il ne l'aurait pas trouvé tout seul?
Très juste.
La solution était donc très simple, il suffisait de changer le cours de l'histoire. Ce qui me rappelle d'ailleurs la solution donnée dans un autre film, hein, mais c'est très facile, il nous faudrait des pouvoirs magiques. Oui, je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais oui, c'est ça, il suffisait d'appeler Kirk. Dans ce film, hein, juste pour faire le lien avec la crise écologique, hein, il a besoin d'aluminium transparent pour ramener deux baleines à bosse au 21e siècle, hein, on les cherchait au 20e siècle, donc il a besoin de faire un conteneur qui contient le nombre de mètres cubes d'eau. Pour ceux qui voulaient vraiment préciser la cohérence de la scène. Non, c'est important la précision scientifique. Je vais en finir là, presque quand même, parce que quand on parle de paradoxe temporel, il y a quand même un grand film où on nous pose le problème du paradoxe temporel, du fait qu'il y a deux possibilités, soit quand les deux Marty McFly se croisent, on déchire le continuum du espace-temps et du coup l'univers cesse d'exister instantanément, ou ils tombent dans les pommes. Évidemment, dans les années 2000, avec le principe de précaution, on ne pourrait pas tourner cette scène. Donc on va finir effectivement avec celui qui pourrait nous apporter la solution, qui est le professeur Emmett Brown. Et là encore, j'attire votre sagacité sur une question de langage et, chose merveilleuse pour moi qui suis anglaisiste, sur une question de traduction. Donc on va regarder l'extrait.
Bon, Doc, ça y est.
Non, pas maintenant, je t'expliquerai ça tout à l'heure, c'est pas le moment.
Mais c'est moi ! Ça alors, je ressemble à un vieillard.
Bonsoir, je me présente, Dr Emmett Brown. Je me trouve sur le parking de la promenade.
Dieu merci, j'ai encore mes cheveux.
Le 26 octobre 1985.
Qu'est-ce que j'ai sur le dos?
Ah, ça c'est une combinaison anti-radiation.
Une combinaison anti-radiation? Ah oui, c'est pour les retombées radioactives des guerres atomiques. Mais ça, ah c'est vraiment surprenant. Un studio portatif de télévision. Je comprends que vous soyez obligé d'avoir un acteur comme président, il faut qu'il passe bien à la télévision.
Voilà, j'y suis, c'est juste après, Doc.
Non, ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité.
Qu'est-ce que j'ai dit là?
Le convecteur temporel. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité.
2,21 gigawatts? 2,21 gigawatts? Mon Dieu!
Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?
Ce sont des hypothèses. La science-fiction est une chose merveilleuse et parfois on en trouve même des vrais bouts au cinéma. Merci beaucoup, bonne soirée.
Daniel Tron. Alors, on va passer maintenant concrètement à la remise des prix, dès que j'aurai réussi à mettre le micro. On va parler maintenant du pôle ludique. J'appelle Adélaïde Legrand et Samuel Tarapaki sur scène.
Bonsoir. Donc, le pôle ludique remet tous les ans... C'est pas facile d'être petite. Donc le pôle ludique remet tous les ans le prix du meilleur scénario de jeu de rôle. Ce prix récompense l'habilité d'écrire une histoire qui sera enrichie par l'imagination des joueurs. Je tiens à remercier la centaine de bénévoles du pôle ludique qui, tel un équipage de l'Enterprise, a su mener le public sur les routes de l'imaginaire. Merci à Marie, Alexandra, Laura, Claudie et toute l'équipe des Éthiopiales pour leur accueil et leur disponibilité. Maintenant, je passe la parole à Samuel Tarapaki, des éditions Sans Dessous, pour remettre le prix.
Merci, merci beaucoup. Depuis plusieurs années maintenant, les éditions Sans Détour sont partenaires du trophée du scénario de jeu de rôle. C'est toujours un plaisir. Cette année, je me suis entouré pour juger, pour évaluer la qualité de ces histoires qui ont été écrites pour l'occasion par un jury composé de membres d'associations. Ils ont monté sur scène de présidents de clubs de jeux de rôle, de scénaristes eux-mêmes. J'appelle également Mandoline de l'association Projet R qui a programmé beaucoup de parties jeux de rôle et de découvertes pour les festivaliers. Voilà, ce sont ces gens-là qui ont eu la lourde tâche de lire les scénarios et de les évaluer, parce qu'on n'écrit pas un scénario de jeu de rôle comme on écrit un scénario de cinéma, une bande dessinée ou un roman. C'est un exercice particulier qui nécessite une discipline. Un scénario de jeu de rôle, c'est fait pour être lu et restitué. C'est pas fait pour être lu pour soi-même, c'est fait pour être lu, compris et partagé. Le jeu de rôle, c'est un réseau social sans fil. Et la technologie, on n'a pas besoin de technologie pour jouer, on a besoin de papier. On a besoin d'auteurs qui écrivent des histoires originales dans le cadre de différents univers. Cette année, le scénario qui a été primé, que vous avez choisi, a été écrit à quatre mains. C'est la première fois que nous avons deux vainqueurs qui partagent le même prix. Ils ont écrit ce scénario à quatre mains. C'est un exercice délicat pour un scénario de jeu de rôle, parce qu'il faut confronter les avis, se mettre d'accord sur le sens qu'on veut donner à son histoire. C'est une histoire qui se déroule dans le monde de l'appel de Cthulhu. C'est le monde imaginé par l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft au début du XXe siècle. Ces deux auteurs sont absents, c'est la raison pour laquelle Mandoline est présente pour recevoir le prix à leur place. Il s'agit de Stéphane Foulque et Cyril Puig. Merci. Je remets le trophée à Mandoline et donne la parole.
Je tiens à dire qu'une horloge cosmique déréglée m'a fait passer de l'état de simple animatrice à celui de représentante des gagnants. Ce qui aurait pu être amusant si j'avais pu garder les lots, mais non. Mais néanmoins, je pense qu'il remercie essentiellement le pôle ludique, qui remercie les éditions Sans Détour et qui remercie toute l'équipe des Utopiales pour ce magnifique prix que je vais m'empresser de leur remettre ou pas. Mais si, on me dit que si, en fait. Voilà, merci à tout le monde.
Merci à tous, bonsoir.
Et maintenant, on va passer au pôle jeux vidéo. Je vais appeler sur scène, pendant que mes camarades redescendent, Florent de Crissac. Qui est là-bas ? J'ai la cérémonie de la petite enveloppe.
Merci. Bonjour à tous. Donc cette année, pour la troisième fois, les Utopiales ont été l'occasion d'une game jam. Donc pour ceux qui ne savent pas encore exactement ce que c'est, une game jam, c'est une sorte de concours de création de jeux vidéo qui se déroule en 48 heures. Donc les deux autres années, la game jam s'était passée pendant les Utopiales. Et cette année, pour des raisons pratiques, nous avons fait la game jam le week-end dernier, qui, en plus de donner une heure de plus aux jammers, puisqu'il y avait le changement d'heure, nous a permis de présenter les jeux pendant toute la durée des Utopiales au niveau du pôle jeux vidéo. Donc voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite demain à voir les différents jeux qui ont été réalisés en 48 heures. Je vais appeler les jammers qui restent. Alors je dis qui restent parce qu'il y a eu 26 participants cette année, ce qui est plutôt beaucoup, mais il y en a peu qui sont là ce soir. Donc ces 26 participants ont constitué 6 équipes et ces 6 équipes ont créé 6 jeux. Il y en a 5 qui sont en démonstration donc au pôle jeux vidéo, je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment une occasion de voir des jeux différents de ce que vous pouvez voir dans le jeu vidéo habituellement, avec bon, 2 jeux qui sont des shooters un peu plus classiques mais très imaginatifs également, et puis des jeux beaucoup plus textuels que je vous invite à découvrir, vous ne serez pas déçus du voyage. Ce qu'il faut dire également, c'est que donc, les équipes étaient constituées de développeurs, de graphistes et d'un seul sound designer, Louis, qui a pu faire le sound design de quasiment l'ensemble des jeux, ou presque. Et, et voilà. Et donc je vais donc maintenant regarder et annoncer le vainqueur. Donc le thème de cette Game Jam était le temps, en l'honneur de l'anniversaire du 50e anniversaire de Doctor Who. Et ça tombe bien, le vainqueur de la Game Jam, les gens qui ont voté sont les participants de la Game Jam. Le vainqueur de la Game Jam est TARDIS Paradox. Voilà. Représenté ici par Julien, le graphiste. Voilà. À qui je vais laisser l'honneur de dire quelques mots.
Quelques mots. Bon, juste pour parler rapidement de ce jeu et de l'ensemble des jeux. Ce sont des jeux de 48 heures faits avec des équipes, avec des joueurs, avec des game designers et autres qu'on connaît pas. On n'a que 48 heures, c'est très peu. Donc, quand on fait un jeu, on a un thème imposé. En 45 minutes, on réfléchit à une mécanique qu'on a envie de développer. Par exemple, dans TARDIS Paradox, on imaginait que toutes les 5 secondes, on remonte dans le temps. Une fois qu'on est remonté dans le temps, on a un deuxième soi, donc qui est dans le passé, mais qui est en fait avec nous. Et du coup, il regarde devant nous, et c'est comme Marty McFly, il ne doit surtout pas se voir. Donc c'était la mécanique du jeu, et tous les autres jeux ont une mécanique simple, qu'il faut développer en 48 heures, puisque bon, une mécanique, 48 heures, c'est déjà beaucoup, on ne peut pas faire plus. Donc voilà, je vous invite à jouer à tous les jeux, donc aux 5 jeux qui sont là-bas, derrière Remember Me.
Merci. Bien. Donc merci à tous et merci beaucoup aux Utopiales pour d'accueillir la Game Jam pour la 3e fois.
Et on va passer maintenant à la bande dessinée. J'appelle Georges Merel, conseiller BD, pour la remise du prix BD. On peut l'applaudir, bravo.
Bonsoir à tous, je suis ravi ce soir d'être sur scène pour vous présenter le 14e prix de la meilleure BD de science-fiction de l'année. Alors, pendant qu'on affiche peut-être la sélection, voilà, je vais vous présenter la sélection et pendant ce temps, je vais appeler les membres du jury qui sont tous issus du lectorat de la médiathèque de Nantes et qui ont dû travailler pendant plusieurs mois, puisque le prix débute à peu près en septembre, la première sélection pour arriver à la finale actuellement. Alors, les ouvrages qu'ils ont sélectionnés sont Au pays des ombres, de Thierry Martin aux éditions Soleil, Les souvenirs de l'Empire de l'Atome, de Thierry Smolderen et Alexandre Clary chez Dargo, L'entrevue de l'Italien Manuel Effort, Rorke de l'Allemand Andreas, Le décalage, 6e épisode des aventures de Julius Corentin Akefak de Marc-Antoine Mathieu, Joe, l'aventure intérieure de Sean Murphy, et Sailor Twain de l'Américain Marc Siegel. Et maintenant, pour remettre ce prix, on va appeler le président du jury, Frédéric Peters, que je suis heureux de recevoir ce soir. dessinateur et lauréat il y a 2 ans pour Château de Sable avec son compère Oscar Lévy. Alors Frédéric, tu vas nous révéler le prix de cette année. Est-ce que tu as un mot à dire sur les délibérations et sur le jury?
Bonsoir d'abord. Et je vérifie, que c'est bien ce qu'on a décidé, parce qu'a priori, j'ai pas besoin d'enveloppe. Hein, mais...
Tu vérifies que c'est le bon. Ouais.
Non, on s'est retrouvé avec 2 livres qui se sont détachés du reste, qui étaient l'entrevue de Manuel Effior et le souvenir de l'Empire de l'Atome. Et la démocratie étant la démocratie, et une voix étant une voix, et c'est un Suisse qui vous parle. Je vais donc demander à Thierry Smolderen et Alexandre Cléris pour Souvenir de l'Empire de l'Atome de monter.
Thierry, si tu veux dire un petit mot.
D'abord, je voudrais vraiment remercier le jury, évidemment, en premier lieu, puisque c'est le jury qui nous a décerné ce prix. Et puis, dire la valeur de tous les autres livres qui étaient en concurrence. Et puis, remercier surtout le festival, les Utopiales, pour nous avoir invités, avoir permis de montrer une exposition et de rencontrer enfin ce festival qui est vraiment très spécial, très original. J'ai adoré l'ambiance et le fait que tout le monde soit présent pour les conférences. Ce festival qui est orienté conférences et débats est vraiment fantastique. Et donc voilà. Et puis évidemment, merci à notre éditeur, mais ça va de soi. Et je laisse la parole à Alex.
Oui, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup pour Agile, surtout Francescano, d'avoir remis notre expo telle qu'elle était à la Cité de la Bande Dessinée. Et on est très content d'être là. Et merci beaucoup.
J'aurai un dernier remerciement pour tout le personnel de la médiathèque de Nantes et en particulier Odile Coulon qui a organisé ce festival, ce prix. Merci à tous.
On va passer maintenant au cinéma avec Frédéric Tang qui est le conseiller cinéma du festival et que j'invite à me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir.
Merci, bonsoir à toutes et à tous. On va essayer de faire bref comme d'habitude. D'abord la première, évidemment, chose qu'il faut dire, c'est que vous êtes toujours de plus en plus présents et nombreux. Historiquement, on peut le dire, j'ai l'autorisation de vous le dire, alors qu'on a encore 24 heures à passer ensemble. On a battu hier un record historique en 14 ans d'édition au moins sur le cinéma et que dire de la librairie. Donc merci à vous chaleureusement, c'est formidable. Hugo l'a dit en introduction, on essaye vraiment de travailler au maximum de façon passionnée et passionnelle entre nous tous. Vérifié par cela, c'est un grand, grand bonheur. Merci beaucoup à vous. On essaye évidemment pour le cinéma de faire beaucoup de choses, on espère le réussir tant faire se peut, et je voudrais précisément remercier quand même un de mes collaborateurs dans l'ombre qui fait énormément aussi pour que tout ça ait lieu, c'est Philippe Lux. Je remercie encore vraiment Philippe qui fait un gros gros boulot sans être là pourtant ce soir sur scène. Merci beaucoup pour lui. Et avant d'appeler les jurés des 2 sélections, il y a une petite chose événementielle quand même qu'il faut rappeler ce soir. Ça peut paraître anodin ou inconnu pour les plus jeunes d'entre vous toutes et tous. Il y a un monsieur parmi pas mal de personnes, évidemment, mais il y a un monsieur particulièrement en France qui a fait, et hors de France, évidemment mondialement, énormément pour la science-fiction et l'imaginaire, justement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point, pendant plusieurs décennies, son travail, sa passion a été d'une fulgurance incroyable et a nourri probablement beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Je pense aux professionnels comme aux amateurs. C'est monsieur Jean-Pierre Dionnet, il est là, ici même, ce soir. Allez, on enchaîne directement, vous l'attendez tous, le palmarès de cette année, et je vous demande tout de suite d'accueillir sur scène le jury court-métrage, monsieur François Angelier, Denis Bajram, Jérôme Lefduc, Denis Wagenwitz, et il en manque un, mais que se passe-t-il? Alors, monsieur Ravalec, enfin.
Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, c'est donc l'heure est venue d'en savoir un peu plus à la fois sur les nominés et les lauréats du jury court-métrage et du prix court-métrage 14e du nom. Voilà donc la totalité des 13 films qui ont été retenus. Le jury était composé de Vincent Varavalek, Denis Valkenwitz, Jérôme Lefdup et Denis Bajram et moi-même. On va vous donner sans plus tarder la réponse. Alors, le prix du jury de la compétition européenne est remis à Ex Aequo, voilà, petite particularité, de Creator de Alan Hall. Et de Sleep Working de Gavin Williams. Alors, un film de 40 minutes, un film de 4 minutes, deux films anglais, mais la question est pourquoi deux films ? Je vais me tourner vers mes camarades qui vont en dire un peu plus. Alors, le premier de Creator de Alan Hall, c'est un film qui nous a fascinés et séduits énormément par sa perfection formelle, par sa maîtrise des effets spéciaux, qui est centré autour de la figure de ce grand savant que fut Alan Turing, qui est à la fois un immense savant sur le plan, je dirais, de la recherche, et sur le plan aussi, qui est un martyr de la question homosexuelle. Mais ce qui nous a surtout retenu, c'est le film. Je me tourne vers Denis Bajram pour nous en parler un peu.
Donc le film pour sujet, l'intelligence artificielle. Donc je vais essayer d'être au moins artificiel. Celui-là nous a vraiment plu parce qu'il se tourne vers notre proche avenir, cette frontière de l'intelligence artificielle qui est en train de s'approcher de nous, peut-être, que tant d'Américains du côté de Google regardent dans l'espoir d'accueillir des nouveaux dieux parmi l'humanité. Justement, ce film évoque cet aspect divinité mécanique, regardant vers une sorte de messie humain qui aurait été leur premier créateur. Donc vraiment, ça nous a vraiment touché pour cette espèce de vision extrêmement allégorique et très forte.
Alors moi, je parle de l'autre film. Alors, déjà, deux prix. Pourquoi deux prix ? Parce que deux, c'est forcément deux fois mieux que un. Donc ça, c'est une chose qui nous a beaucoup motivés. Et sinon, bah, autant le premier donc est quand même assez onirique et nous emmène très loin, autant le deuxième a un aspect social qui nous a marqué et on trouvait que le contraste entre les deux donnait une bonne idée de l'étendue de la palette, sachant que c'est quand même deux films de science-fiction quand même. Et puis voilà, bon, donc le deuxième qui parle de gens qui sont exploités même pendant leur sommeil, à une époque où justement on parle à la fois d'exploitation et de chômage et de choses comme ça. On trouvait que c'était assez marquant, quoi. Voilà. Mais je pense que mes camarades vont en parler encore mieux que moi s'ils le sentent.
Non, moi je ne veux pas en parler parce que vous l'avez bien fait. Je pense que je vais laisser Vincent vous parler des autres films aussi parce qu'on. On a eu une grosse difficulté, c'était de les choisir, et je pense que c'est Vincent qui en parlera le mieux.
Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ça m'est souvent arrivé de voir des sélections de courts-métrages, et c'est pas toujours fameux. Et là, on a vu, pour ma part, deux sélections qui étaient excellentes. On était plusieurs à trouver que l'ensemble des films étaient vraiment de très bonne qualité. Donc, s'il y a des gens qui sont dans la salle et qui avaient des films en compétition, qui ne soient pas déçus, on a eu beaucoup de mal à choisir. Ce qui était intéressant, c'est que l'ensemble des films, en fait, ont exploré des directions différentes, c'était vraiment foisonnant d'idées, aussi bien formellement que dans les thématiques, et qu'à un moment j'ai même pensé qu'on aurait pu donner tous les prix ex aequo, mais on m'a dit que c'était pas possible. Donc on s'est tout de même cantonné à deux lauréats et qui ont l'intérêt de résumer tout de même deux thématiques qui sont opposées. D'une part, comme l'ont dit mes camarades, l'intelligence artificielle qui arrive qui va être notre quotidien de demain, puisqu'on va vivre avec des objets interconnectés. Et puis à côté de ça, des humains qui sont exploités, c'est un petit peu le concept d'Inception, version syndicale, où c'est des humains qui sont exploités non-stop, jour et nuit, aussi bien dans la journée que dans leur sommeil, ce qui nous rapproche aussi de notre condition d'humain. Donc il y avait un peu les deux extrêmes de notre civilisation d'aujourd'hui, et c'était intéressant de distinguer ça.
Voilà, donc merci à toutes et à tous. Et donc je rappelle les lauréats de Creator de Alan Hall et Sleepworking de Gavin Williams. Merci.
Merci, François. Alors, petite nouveauté justement concernant le palmarès, comme vous l'avez peut-être découvert dans le catalogue, il y a toujours cette frustration de voir des jurys monter sur scène, remettre un prix, ou aussi bien pour un ouvrage que pour un film que vous n'avez pas forcément vu. Donc vous pourrez dès demain après-midi, évidemment, en salle 800, donc la salle d'une, évidemment, retrouver les deux films ex-aequo de court-métrage, ainsi que le long-métrage que nous aurons dans quelques instants, évidemment, qui aura été primé en tant que grand prix. Concernant votre prix, comme d'habitude, évidemment, le prix du public, il revient cette année au film Orbit Ever After de Gavin Williams, et on peut vraiment dire que c'est un prix du cœur de votre part, parce que malheureusement il y a un petit souci technique sur le film en deuxième projection. Fallait-il vraiment que vous l'aimiez pour le primer? Merci beaucoup encore à vous. Nous enchaînons avec le grand prix, évidemment, long métrage, et je demande de monter sur scène tout de suite monsieur le président du jury, monsieur Yann Kounen, accompagné de Clotilde Courreau, Speedy Graffito, Vinge Tous et Noël Godin.
Bonsoir. Une chose très importante, Noël voulait s'exprimer une quinzaine de secondes avant que nous remettions le prix. Noël, c'est à toi.
Je profite sournoisement que je suis dans le jury pour m'adresser aux autorités de la mairie de Nantes. Les loulous, quand donc réaliserez-vous que votre fameux aéroport, vous l'aurez dans le cul?
Oui. Oui.
Viva les insurgés de Notre-Dame-des-Landes!
Donc... Ça va être difficile de reprendre, mais je vais tenter de réatterrir. Donc, nous avons choisi un film à l'unanimité, rapidement. On a choisi le film qui nous a le plus ému, en fait. Voilà, pour ses personnages, pour le scénario, ou en tout cas les tribulations dans lesquelles ils vont naviguer. Et je vais laisser Clotilde annoncer le prix.
Donc, ce sera Jodorowsky, Dune, de Frank Pavlich. Voilà.
Frank, please. Frank Pavlich arrive à l'instant même.
Notre ami a droit aussi à un baiser psycho-magique.
So I'm sorry that I'm the one guy up here all night that doesn't speak French, so
je suis le seul garçon sur scène qui parle pas français.
So I apologize. It's very embarrassing, and I've never been so embarrassed.
Je suis désolé. C'est vraiment très embarrassant. Je suis confus.
But I wanted to say thank you so much to, of course, the fantastic jury. Thank you so much to the audience today that really filled in the theater. It was quite amazing with 800 seats. I don't think one was empty.
Merci énormément au jury, merci à tout le public. C'était très émouvant, c'était quelque chose de magique de voir les 800 personnes assemblées dans la salle d'une cet après-midi.
It's definitely been a magical couple of days here in Nantes, and I'm so grateful. And I'm so grateful to Frederick, of course, for inviting us here. It's all just been a wonderful experience. Of course, we have Mr. Chris Foss in the audience. There he is over there.
Nous avons Philippe dans le public, Monsieur Facebook.
Chris, could you come, please?
Come, Chris.
Un grand merci à Fred Tant, Monsieur Chris Voss.
And it's very exciting for us because today was the first time that Chris saw the film. So it was really a perfect. It really couldn't be any better. So of course I share this with my good friend Chris, who speaks French much better than I do.
La projection de cet après-midi ne pouvait pas se dérouler dans de meilleures conditions. C'est la première fois que Chris voyait le film achevé. Et il va vous parler en français, lui.
Je veux dire un très grand merci à tout le monde. Je n'ai jamais venu dans un festival mieux organisé qu'ici. C'était deux jours très merveilleux. Et je veux dire un immense merci à tout le monde. Je n'ai jamais passé un petit moment comme ici. C'est super. Et merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bravo. Bravo pour votre film. Une petite pensée pour Alessandro Jodorowsky qui n'a pas pu venir, pour le cinéaste et l'ambition qu'il a et la voix qu'il montre, et que ce film soit comme d'autres films, comme Au cœur des ténèbres. Ce sont des films qui nourrissent des générations de cinéastes, qui leur montrent l'abnégation, le courage et l'ambition. Donc pour cet exemple, pour cette utopie magnifique, on a vraiment... Merci pour ce film.
Merci à vous.
Merci. Alors, deux petites choses. La première, c'est que Innovation, évidemment, cette année, le prix du Festival Dorénavant Cinéma se voit doté, lui aussi, d'un prix financier, d'une somme de 2000 euros, qui sera donc remise au producteur, qui n'est autre que Frank lui-même, justement.
Really? Wow!
I did not know that.
Merci beaucoup.
Wow.
Alors, et enchaînant à votre prix, bien évidemment, moi, je ne sais pas quoi dire. C'est magique parce que je crois quasiment de mémoire, à peu près ici, puis en fait, pendant une heure et demie, il s'est baladé un peu partout. Monsieur Jodorowsky était ici sur scène. Comme vous le savez, il ne pouvait pas être là ce soir. Yann vient de dire quelque chose d'assez bouleversant. Et ce qui me semble fascinant, c'est que l'osmose semble absolument parfaite parce que c'est également votre prix du public cette année. Jodorowsky's Dune.
Bravo.
Thank you so much. Thank you so much. That really means the jury, of course, is fantastic, but to have the audience is what really means the most. So thank you. Thank you so much. And thank you from Alejandro Jodorowsky as well.
We just basically thank you for me. Thank you.
Monsieur et mesdames, je veux dire quelque chose. Cet monsieur-là, il a fait quelque chose incroyable. Monsieur Jodorowsky, c'était vraiment une géante. Il est une géante du cinéma. Et voilà, c'est presque la fin de son vie. C'est presque la fin de la vie de beaucoup de monde. Et il a créé quelque chose d'étonnant, étonnant. Et grâce à Frank, tout le monde peut savoir maintenant cet immense boulot. Et s'il a fait, il a fait rien, c'est fini cette histoire. Et je dois en partir un immense merci beaucoup à Frank. Il a créé quelque chose qui peut rester pour beaucoup d'années maintenant. Voilà.
Alors évidemment, comme on lisait pour les courts-métrages à l'instant, le Grand Prix long-métrage sera donc rediffusé aussi demain après-midi pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui souhaitent le revoir, ou communiquer très vite dans Nantes pour faire venir les amis le voir, puisque ce donc prix Sci-Fi Channel est également le vôtre. Merci encore à vous. Ce n'est pas fini, comme on disait à l'instant. À très bientôt.
Ok, je... On va passer maintenant à la littérature, voilà, et notamment à la remise du prix Utopia de Jeunesse européen des Pays de la Loire. Je vais inviter Denis de Traz et tout son jury exclusivement féminin, sacré Denis, Myriam Benzaria, Lali Brodu, Jeanne Colombo, venez avec moi, Alizé Guinée, Émilie Jousset, Margot Moineau, Mona Moineau, Emma Poignant-Chaumette, Romane Tully-Houzet, ici.
Bonsoir à tous.
J'ai le grand plaisir pour la troisième année consécutive de superviser le prix Jeunesse des Utopiales, qui est remis, je vous le rappelle, en fait, par un panel de jeunes lecteurs entre 12 et 16 ans qui lisent tous les romans nommés. Donc, cette année, nous avions Microphobie d'Emmanuel Dadoun chez Sarbacane, La Fournaise d'Alexander Gordon Smith chez Pocket Jeunesse, Nox ici-bas d'Yves Grévet aux éditions Syros, 172 heures sur la Lune de Johan Arstad chez Albert Michel dans la collection Wiz, et enfin Contoria de Daniel Martin-Nigol aux éditions La Talente.
À qui je donne l'enveloppe là?
Oh, je vais la prendre. Alors, donc, le lauréat du prix Jeunesse des Utopiales 2013 est
Nox.
Donc, Nox d'Yves Grévet.
Bah, merci beaucoup, hein. Vous avez un très bon goût, je vous remercie beaucoup. Voilà, alors j'ai croisé quelques membres du jury cet après-midi qui ont été super sérieuses. J'ai essayé un peu de demander, mais bon. Voilà, bah, je suis super fier et vraiment très très content. Vraiment, ça me touche beaucoup et je vous remercie beaucoup.
Merci. Et un dernier petit mot, comme vous pouvez constater, la parité cette année a été parfaitement respectée puisque l'ensemble du jury a été composé de lectrices. Donc pour l'année prochaine, s'il y a des lecteurs garçons entre 12 et 16 ans, qu'ils n'hésitent pas à se manifester auprès des libraires nantais. Merci.
On va passer maintenant à la remise du prix Utopial Européen des Pays de la Loire. Je vais inviter Jean-Pierre Dionnet à me rejoindre sur scène, mais aussi Vincent Calvo, qui nous a fait l'affiche, et Erwan Manson.
Bonsoir. Alors d'abord, je voulais vous dire que tout à l'heure, mon camarade Frédéric m'a eu, parce que je me disais, il est en train de parler de Grimaud ou de carnets qu'ils ont retrouvés, qu'ils ont dégelés, puis tout d'un coup il dit moi. Bon, moi, je suis content. Et alors, voilà, je suis avec mes co-jurés. On est très différents. On s'est rencontrés pour la première fois en scène. On avait quatre romans en sélection. Vous les voyez, vous avez donc Rainbow Warrior d'Ayernal aux éditions du Diable Vauvert, au Jamais oublier les éditeurs. L'homme qui savait la langue des serpents de Andrés Kivirak, ça fait un peu laiton, ça comme ça, les éditions Attila, Exode de Jean-Marc Ligny et La Talente, et La Maison des Derviches de Yann MacDonald chez De Noël. J'arrête de vous tourner le dos, ce n'est pas très poli, et on a été hyper embêtés. Vous me direz, tous les jurés disent ça. Non, on a été hyper embêtés. Pour deux raisons. C'est que des fois, un jury peut être plié en 4 secondes. Je me souviens d'un autre jury où j'ai participé, où tout d'un coup, quelqu'un a dit le bouquin de Shina Mieville et c'était plié. C'était fini. Tout le monde a levé la main. Là, on avait 4 livres qu'on a tous défendus, chacun notre tour, sans arrêter du tout. Pour telle raison, 4 livres extraordinairement différents, 4 livres qu'en fait, entre nous, il faut lire les 4, ils n'ont rien à voir, et si vous ne lisez pas les 4, mais ça serait méchant pour le gagnant, vous aurez tort. Par contre, si financièrement vous devez échelonner, commencez par le Grand Prix, et puis si vous gagnez au loto, les 3 autres, ou alors vous vous débrouillez, volez-les si vous ne pouvez pas les payer. Non, on ne doit plus dire ça, c'est fini, c'est terminé. Bon, donc ces 4 livres, on a débattu, mais ça a été très long. On n'était que 3, et ça a duré presque, je dirais, 3 heures dans ma tête, parce qu'ils sont têtus, les animaux. Il y avait un lecteur, et il y avait un homme qui fait quoi déjà?
De l'architecture.
Voilà, c'était l'architecte qui nous a proposé ces villes magnifiques, etc. Donc, des formations qui n'ont absolument rien à voir. Et puis, un vieux lecteur de science-fiction qui a dû commencer en 1914 et qui trouvait Jules Verne trop d'avant-garde. Mais après, je me suis réconcilié avec Barjavel juste après la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, il faut que je change de pays parce qu'on va commencer à dire que je suis un peu trop vivant vu ma date de naissance, 1896 en réalité. Donc, je vous laisse maintenant, plutôt je laisse un de mes camarades vous dire qui a gagné, mais en disant, je ne suis pas faux cul, en disant qu'on a vraiment eu du mal et qu'en dernier ressort, il y en a deux qui ont été là comme ça. Et on n'a pas fait le choix à pile ou face, mais il a bien fallu choisir. Donc le gagnant est...
Donc le prix Utopia européen 2013 est attribué à Jean-Marc Ligny pour Exode.
Alors, comme il ne le savait pas, il est très très loin. Preuve qu'il n'y avait pas connivence et qu'on lui a rien dit. Et maintenant, c'est qui parle ? C'est qui parle ? Normalement, c'est Jean-Marc Ligny.
Oui, oui, c'est moi.
Qu'il dise merci, mais qu'il explique aussi un peu ce que c'est que son livre, de quoi ça parle.
Je ne sais pas si c'est vraiment le moment.
Eh ben oui, quand même, oui, c'est le minimum, oui.
En fait, je suis très surpris et très ému. Personne ne m'a rien dit, on me cache tout, on ne me dit rien. J'ai une belle statue en verre. Je vais expliquer un peu. Exode, c'est...
Regarde-les, eux.
Comment expliquer Exode en trois mots quand on est ému comme ça? Je dirais que c'est tout simplement la fin de l'humanité parce que le réchauffement, le changement climatique s'est emballé. La planète devient hostile à la vie humaine et à la vie en général. C'est la sixième extinction des espèces en cours. Et les humains sont comme des termites sur une bûche enflammée. C'est une parabole qui se trouve dans Exode et aussi sur la quatrième de couverture. Et c'est quelque chose que j'ai vu personnellement et j'ai eu envie de mettre cette parabole dans ce livre. Vous mettez une bûche dans le feu et dans cette bûche se trouvent des termites. Au début, les termites ne se rendent pas compte que la bûche est enflammée. Elle est encore fraîche à l'intérieur, donc elles vaquent à leurs petites occupations, elles creusent leurs galeries, elles mangent le bois, elles sont tranquilles. Et puis, peu à peu, ça chauffe, ça commence à fumer. À l'intérieur, les sucs du bois commencent à bouillir et tout. Donc elles s'inquiètent, les termites, et elles sortent. Elles sortent de leur trou et puis elles cherchent une issue. Elles se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les flammes les entourent peu à peu. Et donc elles s'affolent, elles courent dans tous les sens, elles se grimpent dessus, elles cherchent de plus en plus une issue. Certaines sautent dans le feu directement parce qu'elles se rendent compte qu'en fait il n'y a pas d'issue. Et dans Exode, les humains sont un peu comme les termites sur la bûche. Et la bûche c'est la terre. Mais malgré tout, à la toute fin du livre, il y a peut-être une issue.
Voilà, c'était simple, mais j'ai oublié de dire comme quelque chose d'essentiel, c'est aux éditions La Talente qui font un travail formidable depuis très longtemps à Nantes.
Et donc, pour finir, je dois bien évidemment remercier le jury pour son choix judicieux. Malgré une concurrence impitoyable. Je vais remercier aussi évidemment Hugo et Roland et Marie, les têtes pensantes et chevilles ouvrières des Utopiales, parce que les Utopiales existent et que c'est le plus beau festival de science-fiction du monde. Et puis que c'est la deuxième fois que j'ai un prix aux Utopiales aussi. Je dois remercier évidemment tout le public, vous tous qui êtes encore ici malgré l'heure tardive, mais je sais que vous attendez le moment où on va aller boire un coup. Et enfin, je dois donner un immense et éternel merci à Sylvie Lenné pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le prix des Utopiales, mais ceux qui nous connaissent un petit peu savent pourquoi. Merci.
Voilà, alors je suis gardeur de micro et je voulais dire quand même la même chose. Je suis pas venu à Utopiales depuis longtemps et c'est magique. Parce que dans ce lieu unique, on rencontre d'abord les gens qu'on voulait rencontrer, puis ceux qu'on connaît pas. Et puis il y a des gens qu'on recroise sur lesquels on avait une idée un peu fausse et on parle davantage. Et par exemple, j'ai été extrêmement épaté de voir se former au fil du festival un couple contre nature de Laurel et Hardy entre Norman Spinrad et Orson Scott Card qui ne se quittent plus et qui finissent la phrase l'un de l'autre. C'était magique.
On termine toujours cette cérémonie aux Utopiales par la photo de famille. Donc j'ai demandé à tout le monde de rejoindre la scène. Marie, Roland, le cinéma, tous les pôles, les jurés. Hop. Ouais, venez. Les bénévoles également. C'est le moment. On va demander un petit peu de musique pour la photo et puis surtout applaudissez-la. Merci à eux. Voilà, bravo à tout le monde. Les Utopiales, c'est pas encore terminé. Il y a encore ce soir, il y a encore demain, il y a encore lundi matin pour ceux qui ont la chance d'être encore à l'école. Merci à tous, bravo et bonne soirée.
Et merci à Jérôme Vincent, l'animateur de la soirée aussi.